Le backlash écologique. Ouais, on est en plein dedans, non? On parle du fait que quand il y a des avancées dans un domaine, il y a un backlash derrière, c'est-à-dire un retour en arrière un peu inévitable. On est en plein dedans parce que Trump est arrivé au pouvoir, ne serait-ce que ça?
Bonjour à toutes et bonjour à tous, Mathieu Noël Pouponne, mais nous sommes bien là au rendez-vous de ce qui fait notre marque de fabrique, décrypter l'air du temps et passer un bon moment, seulement voilà. Peut-on encore rire quand le président de la première puissance mondiale dit ça ?
Me concernant, j'adore prendre une bonne douche pour prendre soin de ma sublime chevelure. Je dois attendre 15 minutes pour qu'elle soit mouillée. Et si l'eau sort, ça fait plouf, 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 c'est ridicule.
C'est ridicule, et c'est vrai qu'il a de si beaux cheveux, Donald Trump. Ça mérite bien d'assécher la planète. Et puis, sans compter sur le retour des pailles en plastique, c'est vrai que ça manque le plastique dans l'océan.
On l'appelle le continent plastique. Il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France.
Et tiens, vous savez quoi? Ce n'est pas tout. En France, on doit déjà se préparer à un scénario où la température va grimper de 4 degrés. Super, le gai savoir. Et pourtant, le problème aujourd'hui, c'est plus que disait le président Chirac.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Eh non, le problème aujourd'hui, c'est pas qu'on regarde ailleurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on lui dit merde à la planète, un bon gros fuck. Mesdames, messieurs, je vous présente le backlash écologique. Quand le combat pour sauver la planète, ou ce qui peut encore l'être, n'est tout simplement plus une priorité, voire même quand certains disent ça.
Je pense que la pollution n'existe pas.
Oui, voilà, c'était ici, dans ce studio, Mathieu Kassovitz qui nous scotche en disant que la pollution n'existe pas. Il se trompe, elle existe. Pourtant, dans un incroyable retournement de situation, ce combat pour la cause écologique est devenu, lui, même l'objet d'une véritable offensive à grande échelle. Une offensive menée par les ultra-conservateurs, par les complotistes et plus largement par ce qu'on appelle désormais une grande internationale réactionnaire. Seulement voilà. Difficile ici de faire les malins quand, dans cette équipe de pseudo-wokistes, on a fait les malins avec nos starter packs. Oh. Vous savez, ces personnages, genre figurines qu'on peut acheter dans les magasins, qu'on a vu déferler partout sur les réseaux sociaux, celles de Mathieu, celles de Manon, celles de Quentin, la mienne et même toutes celles de l'équipe de l'émission. À ça, on a l'air malin à dénoncer le backlash écologique tout en faisant mumuse avec l'intelligence artificielle pour faire du clic. Mais, on n'échappera pas aux questions qui dérangent, pas question de se cacher derrière notre petit doigt, vous verrez. Quant à savoir, si on parlera de la mort du pape, mystère, vous verrez, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Le backlash écologique, Zoom Zoom Zen, épisode 528, et ben c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière.
Et tout ça, oh. Et même bonjour Jean Jouzel.
Bonjour, bonjour Manon, bonjour Cyril.
Et bonjour,
bonjour Quentin,
bonjour
et puis un petit clin d'œil à Mathieu bonjour. Quand même. Et puis
bon, bonjour à tous et à tous. Vous ne nous écoutez pas, ça aurait dormi à faire une sieste. Jean Jouzel, vous êtes climatologue, médaille d'or du CNRS en 2002, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC. À ce titre, vous avez reçu le prix Nobel de la paix, c'était en 2007. Jean Jouzel, vous alertez depuis des années sur les conséquences du dérèglement climatique. Autant dire que ça n'a pas toujours été facile, mais alors aujourd'hui, ça se révèle encore plus compliqué. Sommes-nous face à un réel recul de la lutte en faveur de l'environnement? Vous allez nous le dire. Le temps pour moi de vous présenter le reste de cette Dream Team. À commencer par la coupable, la Marianoche, Manon Mariani, fille d'ange et cri-cri Mariani. C'est elle qui nous a embarqués dans cette folie des starter packs. Oh, c'est elle qui a créé tous ces personnages. Oui, c'est elle, bien sûr que
c'est vrai.
Vous avez pollué.
C'est vous qui avez créé tous ces personnages. C'est vous qui avez multiplié les prompts pour que votre figurine ait l'air chippie, mais pas trop méchante quand même.
Bah oui, mais
c'est
vous,
elle. C'est vous qui avez pris un abonnement premium à ChatGPT pour vous adonner à ce petit jeu dévastateur pour la planète. C'est vous qui comptez bien faire passer cet abonnement en note de frais au sein de Radio France. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour à tous. Non mais vous êtes un peu méchant quand même là-dessus, parce que m'avez tous les deux demandé de changer 12 000 fois votre starter pack, n'est-ce pas
Oui, mais parce que le mien n'était pas du tout fidèle à ce que je suis dans la vraie vie.
Oui.
Alors Manon, avant de devoir répondre à vos actes ignobles, vous allez quand même faire votre job et nous brosser le portrait d'une personne à suivre pour qui s'intéresse au backlash écologique.
Oui, et qui mieux que la militante écolo-française, j'ai nommé cette chère Camille Etienne, qui a parlé de backlash écologique il n'y a pas si longtemps dans une interview.
De l'autre côté de la table, le écologiste de la bande. Il roule en scooter électrique, il se fringue sur Vinted, et quand il ne trouve pas sur Vinted, il emprunte les caleçons de son cousin.
Oh.
Il prend tellement soin de la planète. qui ne se lave pas les cheveux, ou lave plus les cheveux, qui ne s'est pas rasé depuis ses 14 ans, et ça lui fait une barbe de 3 jours. Chez lui, pas de backlash. Il est le Camille Etienne de Zoom Zoom Zen. Bonjour Quentin lui.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Quentin, dans la rue, qu'est-ce qu'on pense de ce retour de bâton contre le combat écologique?
Eh bien, on observe un relâchement dans nos quotidiens, dans les conversations, dans le fait de convaincre les autres également. J'ai arrêté plusieurs générations qui parlent de ce backlash écologique. Vos témoignages au micro d'Inter dans la rue, ce sera avant 16h30.
Et en fin d'émission, Marie Leonardi est en partie cassée du zadiste avec sa belle famille. C'est Guigui Pop qui viendra nous rendre visite. On verra ce qu'il a à nous dire de ce backlash écologiste. Et attention surprise, en l'absence du tenancier habituel, c'est Marie Debreuer qui viendra animer le Zoom Zoom Test. Ah. Ça promet quelques moments d'anthologie et une certitude, ça sera moins long que les 26 minutes de quiz que nous avait pondu Pierre Courat dans son temps. Mais d'abord, Jean Jouzel, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on est vraiment face à un recul de la conscience écologique ici en France, mais partout ailleurs?
Oui, de quoi parle-t-on d'abord quand on parle d'écologie? Alors, bien sûr, un peu plus peut-être de mon côté de réchauffement climatique, mais il y a beaucoup d'autres choses tout aussi importantes. Hein. La perte de biodiversité, la pollution, vous venez de nous dire que certains disent qu'il n'y en a pas, mais il y en a vraiment beaucoup. Les phytosanitaires, ça peut, voilà, les plastiques, vous les avez évoqués, donc plus généralement, bon, tous ces problèmes environnementaux. Alors, contrairement à... Bon, si vous faites cette émission, c'est parce qu'on doit parler du backlash écologique. Et mais l'idée de l'opinion publique, les enquêtes ne montrent pas vraiment cela. C'est-à-dire que l'importance accordée à l'environnement en général, aux problèmes environnementaux, ne baisse pas vraiment. Voilà, il y a un indice de l'ordre de 8, et il a plutôt légèrement augmenté entre 2003 et 2024. Dans l'opinion publique, chez le citoyen, il y a beaucoup de mesures qui sont, disons, prises au sérieux. Par exemple, il y a eu 50 mesures proposées par l'OCDE, et voilà, donc il n'y en a que 6 qui ont donné lieu à des problèmes. Donc, alors par contre, quand on parle de backlash, ça dépend... où on se place, c'est-à-dire si on se place du côté des décideurs politiques, de certains décideurs économiques, c'est là qu'il y a le backlash écologique. C'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est une construction un peu, disons, politique. Il y a cet aspect politique, bon, ouais, et médiatique également. C'est-à-dire pour, oui, je veux pas vous accuser, je n'osais pas le dire. Mais c'est un peu vrai. Je veux dire par là que c'est avant tout pour décrédibiliser des actions ambitieuses au niveau européen, mais au niveau français, on voit bien que toutes ces politiques et c'est cela. Donc, il n'y a pas un recul vraiment très clair dans l'opinion. Bien sûr, il y a moins d'intérêt, il y a beaucoup d'autres problèmes qui prennent la place, le pouvoir d'achat, l'insécurité, tout ce qu'on veut, mais vraiment, je dirais non, il y a pas, ça dépend du côté où on se place, mais du côté des politiques, oui.
Et on va y revenir pendant 7 heures. Lui, il me charrie depuis tout à l'heure sur ma pseudo-conscience écologique. Et pourtant, c'est lui qui a fait ce qu'on appelle l'aller-retour de la honte à Las Vegas. Et oui, 24 heures d'avion en un week-end. Tout ça pour aller voir U2 jouer With or Without You dans une boule géante. Mais Cyril Lacarrière a le sens des priorités. Et on sait maintenant sa priorité numéro 1. Et bah, c'est ce cher Bono. En attendant de vous racheter une conscience écolo, Cyril, vous allez nous dire le backlash écologique, d'où ça sort.
Faisons un peu de découpage et commençons par backlash. C'est en 1991 que le mot est popularisé dans un livre « Backlash, the Undeclared War Against American Women », livre de la journaliste et essayiste américaine Suzanne Faludi, publié 2 ans plus tard en France. Selon l'autrice, c'est un concept qui veut que chaque avancée pour le droit des femmes et des minorités serait immédiatement suivie d'un retour de bâton réactionnaire. Dans son livre, elle dénonce également la manière dont les médias ont propagé l'idée que les mouvements féministes ont bien remporté la bataille des idées, mais que cela s'est finalement retourné contre elles. Pour Faludi, ce discours induit, au fond, que ces femmes auraient eu tort de mener ces combats. Et c'est ça, le backlash.
Et quand est-ce que la notion écologique est venue s'ajouter à celle de backlash?
Eh bien, en fait, avant que cela devienne une notion à part entière, ça a d'abord été un mouvement. Une série de décisions et de choix d'orientation politique, pas forcément à grande échelle, mais qui, sur le long terme, racontaient déjà un changement de cap. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des signaux faibles. Exemple, en 2023, 2 chercheurs anglais révèlent que lors de plusieurs élections municipales, un tiers des électeurs ont choisi des candidats qui leur promettaient des mesures plus favorables à l'automobile. Ce backlash écologique, c'est d'abord sur le plan local qu'il se fait sentir. Pour terminer, une trouvaille. Pour briller lors de vos dîners en société. En préparant ce petit billet, je suis tombé sur une archive du New York Times, son titre « Ecological Backlash ». Et cet article est daté du 25 mars 1970. Je vous lis la première phrase du papier. Le mouvement en faveur de la protection de l'environnement a déjà atteint sa maturité et suscite des réactions négatives, peu nombreuses, mais de plus en plus fortes, 55 ans plus tard. On y revient, et ça tombe bien, on va y revenir durant une heure.
Merci Cyril. Alors c'est vrai, Jean Jouzel, quand on parle de ce retour de bâton écologique, est-ce que ça veut dire qu'on est allé trop loin dans les campagnes culpabilisantes, parfois le ton moralisateur, les documentaires anxiogènes?
Peut-être, je ne crois pas qu'on soit vraiment allé trop loin, mais peut-être y a-t-il quelques maladresses, effectivement, dans les messages qui ont été délivrés. Mais ça s'appuie quand même sur une réalité, c'est ça tout le problème.
Lesquels messages sont allés trop loin pour vous ?
Ben, quelquefois, oui, effectivement, l'anxiété peut être, présenter ces problèmes environnementaux simplement à travers leur caractère anxieux, l'éco-anxiété, et peut-être négatif. Il y a certains films qui ont été le cas. On peut penser au film de Nicolas Hulot, par exemple, un des films dans les années 2009, j'ai plus le titre, mais c'était vraiment assez difficile. Il y a aussi cette... il vaut mieux avoir la volonté de présenter ces problèmes environnementaux de façon, je dirais, pas trop positive, mais disons, il y a beaucoup à faire. Disons, il y a un côté très positif dans ces aspects environnementaux à les prendre en compte, que ce soit la pollution, que ce soit le développement des renouvelables, on en reparlera. Mais donc, oui, il y a peut-être eu certaines maladresses, peut-être sommes-nous allés trop loin, il y a peut-être quelques fois des exagérations aussi. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de, et ça arrive quelquefois, au-delà de ce que notre communauté scientifique est capable de dire. Je suis là, enfin, disons pas au titre de la communauté scientifique, mais c'est disons, au fond, voilà ma formation.
Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lumi, Cyril Lacarrière, sur France Inter.
Le climatologue Jean Jouzel est avec nous pour zoomer sur le backlash écologique, ce retour de bâton des politiques en faveur de l'environnement qui inquiète tous les scientifiques. Évidemment, on va parler de la disparition du pape. Jean Jouzel, vous avez eu l'occasion de discuter avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Quelle conscience écologique il avait, ce pape
François ? Oui, il avait une conscience écologique très, très claire à travers, par exemple, l'encyclique Laudato Si. Il y a presque une dizaine d'années, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer avec Pierre Lautoroux en tête-à-tête pendant près d'une demi-heure autour de cette antique, et c'était un moment vraiment formidable. Voilà, ça m'a beaucoup marqué, et il a fait le lien très clairement entre le réchauffement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique, les inégalités, le manque de solidarité de notre planète, et ça c'était très important et très touchant.
Mais un pape, ça peut faire changer les choses sur ce genre de sujet? Ou est-ce que c'est surtout symbolique?
Je crois qu'il a fait beaucoup de bien par rapport à l'environnement. Disons, ce message Laudato Si a été, je crois, très bien perçu.
Jean Jouzel, est-ce que le plus grand coup porté à la lutte contre le règlement climatique aujourd'hui, c'est pas tout simplement la réélection de Donald Trump aux États-Unis?
Si, c'est un coup terrible, on le voit bien, c'est quand même terrible ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, ça a commencé par quelques éléments qu'on connaît, mais quand même, disons, dès son élection, c'est la réunion du GIEC, donc ce groupe de scientifiques qui se réunit à... disons en Chine à l'époque, mais même il n'était pas, la représentante des États-Unis, Kate Calvin, disons, qui est co-présidente d'un des groupes de travail, n'a pas le droit d'y aller, et c'est assez terrible. Donc on voit bien, ensuite il y a ce qui est assez terrible. Alors ce n'est pas que le réchauffement climatique ou les aspects climatiques qui sont attaqués. Vous savez bien que vous avez des aspects aussi santé dans certains domaines, mais il y a des mots interdits quand même, d'interdire les mots comme science du climat, réchauffement climatique, on ne peut plus les prononcer. Donc voilà, il y a des coupes budgétaires importantes. Disons, moi-même je m'intéresse beaucoup à l'Antarctique, et il y a une station, la station McMurdo en Antarctique, une grande station américaine dont la rénovation est remise en cause. Voilà, donc il y a beaucoup de données qui vont manquer, par exemple, maintenant qui ne sont pas reprises.
Mais il n'y a pas de possibilité de prendre des relais?
Si, c'est ce qui se passe un petit peu. Il y a des relais qui se font, par exemple, des exemples, l'agence américaine qui s'intéresse au climat et à l'océan fait des rendez-vous réguliers, puis la NASA également. Donc ils sont interdits de le faire, et des universités ont pris le relais, par exemple, pour faire ça. Donc on espère qu'il y aura aussi des relais de financement, parce qu'on parle de diminution, de division par deux des budgets de la NASA, parce que disons, alors qu'il y a beaucoup des travaux de la NASA qui sont tournés vers l'observation de la Terre. C'est tout cela qui est... Donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment extrêmement négatives, mais c'est surtout l'état d'esprit et le fait que la communauté scientifique se sente vraiment très mal à l'aise.
On parle de backlash, donc de retour de bâton. Il y a aussi un retour en arrière. Il y a une mesure hautement symbolique, mais surtout hautement polluante, le retour des pailles en plastique.
Voilà, oui.
Aux États-Unis. Vous avez compris cette annonce de Trump ?
Non, et bah, voilà, c'est peut-être simplement... C'est son soutien à Drill Baby Drill. Hein, donc l'idée, le lien entre plastique, évidemment, et le fossile est très clair, entre le pétrole, et c'est cela. Et oui, c'est vraiment... c'est vraiment désastreux, je dirais, de ça. Et ça a été vraiment promulgué. On verra bien si c'est maintenu, mais c'est incroyable la façon dont il en parle, effectivement, Donald Trump.
Tout à l'heure, je l'ai présenté comme l'écolo de notre équipe. C'est surtout
c'est hein, vrai,
pour lui faire plaisir. Non, vous allez voir, c'est pas vrai. Il a demandé à Manon Mariani de refaire 16 fois sa figurine de Starter Pack. Il trouvait que l'IA ne rendait pas suffisamment hommage à son blouson Valentino Rossi. Un blouson dont l'expert de la mode, Loïc Prigent, avait dit ceci.
On dirait une étiquette de cagette. Et les étiquettes pour les produits un peu exotiques.
Ah oui,
pour
ouais.
Les fruits exotiques.
Bon, coloré quoi.
C'est coloré. Ça, même pour ChatGPT, c'était trop dur.
C'est drôle.
Alors, Quentin, c'est sans blouson, sans chemise et sans pantalon que vous êtes allé voir les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont eu à vous raconter sur ce backlash écologique ?
Donc, en slip.
Oui, slip.
Beaucoup de choses au gré des rencontres, Cyril. Et ma première rencontre, justement, c'est Isoé, la petite vingtaine, en foulard à motif pesselé dans les cheveux. Une veste en jean un peu trop large pour elle. Elle a barré la marque. C'est quoi cette veste ?
C'est une veste que j'avais achetée en friperie, mais c'était une veste Trump, du coup j'ai barré le Trump.
Ah oui, Trump Marina Hotel Casino.
Ouais, mais je l'avais acheté en fripe et je la trouvais stylée, mais vas-y, je voulais pas avoir un gros Trump sur moi.
Bah oui, elle a cousu main une croix rouge pour barrer le nom du 47e président américain. Alors évidemment, que lui inspire le
backlash écologique ? Bah, Trump, hein. Déjà, le truc avec le Groenland, le fait qu'il veuille renforcer toutes les puits de pétrole, enfin, oui. Continuer...
Drill, baby drill.
Ouais, voilà, exactement. Qu'il soit sorti de les accords de Paris. Mais oui, je vois bien qu'il y a un relâchement, ouais.
Ça t'effraie ?
Ouais. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui garde espoir, donc... Parce que j'ai l'impression que les gens sont quand même de plus en plus conscients de la situation, même s'il y a un relâchement.
Ce relâchement dont elle parle, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Plus loin, alors qu'elle partage une cigarette sur un banc public, je demande à ces deux jeunes femmes si elles font moins d'efforts écologiques.
On en fait moins en tant qu'individu, mais ça, on s'en fout. Parce que je trouve personnellement que les discours moralisateurs sont faits pour faire porter le chapeau aux populations au lieu de les faire porter aux multinationales et aux riches, qui, eux, sont les causes premières de la pollution et de ce qui se passe sur Terre, quoi. On a un peu ras-le-bol et que, du coup, c'est ça qui va apporter un backlash... des populations sur le sujet de l'écologie, quoi.
Bon, très bien. Et donc, sur quoi elles se relâchent dans leur quotidien ?
Sur le tri. Personnellement, je trie pas vraiment mes déchets.
Qu'est-ce qui vous a fait arrêter ?
La flemme.
Oui.
Un sentiment que ça va servir... Enfin, ça sert à rien, quoi.
Moi, je trie toujours, donc bon, j'essaie quand même de faire ce que je peux. Mais c'est vrai que l'écologie, elle ne l'est pas vraiment si on n'a pas une perspective... anticapitaliste derrière.
J'arrête Mourad maintenant, la quarantaine, casquette à l'envers, chaîne en or, petite lunette rectangle. Il me confie qu'il est au chômage actuellement, mais qu'il cherche dans la restauration.
Backlash écologique.
Est-ce qu'on parle moins de l'écologie aujourd'hui ?
Ouais, je pense, ouais. On ne parle pas de l'écologie maintenant. La plupart des gens, ça parle la vie chère, voilà. Bah, je ne sais pas, les gens ne pensent pas au tri maintenant. Ils pensent qu'est-ce qu'il y a dans les magasins pour bouffer, hein, c'est cher.
Vous voyez ça, vous faites encore le tri chez vous ?
Comment le tri comment le tri ?
Plastique.
Ah non.
Tout dans la même poubelle.
Ah, tout, comme tout le monde, hein ?
Ben non, il y en a qui font le tri.
Ah ouais ?
Mais les poubelles jaunes, vous vous souvenez ? Les poubelles jaunes.
Ouais, il y a des poubelles jaunes, ouais, la plupart ils jettent dans le même. Je pense même quand ça arrive, ils font pas le tri, ils jettent tout dans le même truc. Hein.
Bon, là, l'impression d'un petit retour en arrière quand même. Est-ce qu'il est là aussi, le backlash écologique ? Je cherche à me rassurer un peu quand je croise Guillaume, il a 25 ans. Baggy, suite de skater rose, c'est quoi son truc écolo à lui ?
Le train ? Le train, c'est génial. Le train, c'est trop bien.
Arrêtez l'avion.
J'ai jamais pris l'avion. Je fais pas d'efforts écologiques parce que j'ai pas un train de vie qui me permet d'être très polluant, genre. Donc je pense que c'est plus dur pour les personnes qui ont la facilité de dire « Ah bah là, si je veux, je prends un avion, qui ont plus d'argent. » Mais moi, personnellement, le train, les jeunes, il y a TGV Max qui est génial. Abonnement, c'est trop cool, c'est pas cher.
T'as quel âge, toi ?
Moi, j'ai 24. Donc c'est jusqu'à 26 ans. Franchement, je fais la pub pour la SNCF un peu.
Un peu.
C'est excellent. Hein.
Ah, excellent, un petit peu, oui. Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur, crâne rasé, lunettes à contour rouge, veste à carreaux et foulard qu'il protège du vent. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Aurélien.
Vous avez quel âge ?
43 ans.
Qu'est-ce que vous faites, vous ?
Prof.
De quoi ?
Histoire géo. Le backlash écologique. Ouais, on est en plein dedans, non ?
Eh oui, je lui parle de mes rencontres, du sentiment de relâchement. Pour lui, hors de question.
Moi, je l'ai pas relâché au contraire. Je pense qu'il faut se battre pour ça. Et je pense que je le fais avec mes élèves aussi, au travers de la géographie notamment.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est au programme déjà, le réchauffement climatique par exemple, enfin le changement global. Donc il faut pas lâcher là-dessus, sur le fait que la science est en danger en ce moment et elle est attaquée, donc il faut la défendre. Moi, je trouve que les élèves sont beaucoup plus écolos que ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas parce qu'ils sont arrivés sur leur portable qu'ils le sont pas. Mais ils ont besoin de comprendre que tout est systémique et c'est complexe. Au contraire, moi, je les trouve assez pertinents sur la question alors qu'ils sont jeunes.
Des leçons de morale qui ne font plus effet au regard des grandes entreprises qui continuent de polluer, ceux qui continuent de prendre l'avion, les cargos qui continuent de transporter des marchandises venues de l'autre bout du monde, incarnés aussi par le retour de l'actuel président des États-Unis d'Amérique. Bienvenue dans l'ère du backlash écologique.
Le climatologue et prix Nobel de la paix, rien que ça, Jean Jouzel est notre invité. Jean Jouzel, comment on en est arrivé à devoir choisir entre sauver la planète et finir le fin de mois ?
Oui, c'est, ben, disons par rapport à réchauffement climatique, il y a une caractéristique qui est que, eh bien, les causes du réchauffement climatique, nos émissions de gaz à effet de serre, disons, ne s'imprime vraiment dans la réalité que quelques dizaines d'années plus tard. Il y a un décalage entre les causes et les conséquences. Et on a du mal, effectivement, à peut-être prendre conscience de la réalité du réchauffement climatique. On a eu du mal, disons, notre communauté scientifique, nous sommes absolument convaincus, je suis absolument convaincu depuis, pour ce qui me concerne, près d'une cinquantaine d'années, de la réalité de ce réchauffement. Mais sa réalité, disons-le, la vraie prise de conscience, disons, dans l'opinion publique, ne date que d'aujourd'hui. Alors que, et c'est ça tout le problème, c'est-à-dire qu'il aurait fallu prendre des mesures, on le dit d'ailleurs depuis la Convention climat de 1992, il aurait fallu prendre des mesures à ce moment-là.
Lesquelles ?
Et celles qui ont été proposées, d'ailleurs, elles étaient proposées dans le protocole de Kyoto, c'est-à-dire que les pays développés diminuent leurs émissions de 5% sur 2008-2012 par rapport à 90. C'était déjà assez ambitieux. Si on était parvenu, ça aurait été extrêmement bien. Et en fait, une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas parvenus, c'était aussi l'élection de George Bush. C'est-à-dire que les États-Unis, ne se sont pas impliqués dans le protocole de Kyoto. Et ça a eu un effet extrêmement négatif à l'époque.
Parlons un tout petit peu des rencontres que j'ai eues. Les deux amis Mourad qui m'avouent ne plus trier. Ça paraît bête, mais qu'est-ce que ça dit de nous en ce moment, ça ?
Oui, le tri peut être intéressant parce que, disons, après, derrière, il y a la possibilité de récupération, y compris du point de vue énergétique. Donc, c'est intéressant, mais, disons, il y a beaucoup d'autres façons de participer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, mais si, même ça, on arrête
oui,
de le faire.
Oui, effectivement.
Ça traduit quand même bien ce ras-le-bol.
Ça traduit un laisser-aller, je suis bien d'accord que j'ai beaucoup plus apprécié Isoé ou Aurélien. Je dirais, non, mais voilà, si vous voulez. Bon, Guillaume était pas mal non plus. Ouais, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'enseignement. C'est nécessaire et c'est bien.
Le fait que le changement climatique soit dans le programme scolaire, c'est important.
Oui, c'est important. Je me suis beaucoup intéressé à ces aspects, y compris dans l'enseignement supérieur. J'ai coordonné un rapport sur la formation, la sensibilisation à la transition dans l'enseignement supérieur. Il faut que ça passe. Disons, nos élites ne sont pas éduquées par rapport à l'environnement, soyons clairs. Nos élites, y compris nos élites actuelles.
Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lully, Cyril Lacarrière sur France Inter.
Et on parle backlash écologique aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen. Et toujours cette question lancinante, va-t-on parler de la mort du pape François dans cette émission ? Peut-être plus tard, vous verrez. En tout cas, ce que je peux vous dire, absolument, c'est que nos camarades du 18-20, eux, ils sont déjà en surchauffe là-dessus. Ouais. D'ici là, on va se détendre. Et comme Mathieu Noël sèche l'école, le Zoom Zoom Test se féminise à la sauce Marie de Breuer. Bonjour Marie.
Bonjour. Alors, sans vouloir remettre en cause cette légende urbaine qui est le réchauffement climatique qui soi-disant assèche les nappes phréatiques, il pleut ce lundi de Pâques. Voilà, c'est pas pour bâclacher, hein, c'est juste un petit, une petite intro billet d'humeur. Voilà, une petite goutte de seum dans l'océan du Gai-Savoir. Enfin, l'océan, la grosse plaque. Mais bon. Alors, pour l'ouverture de la quinzaine 0% Matno, un zoom-zoom test format à qui appartient ce profil Tinder.
Ah.
Alors, je vais vous lire des bios Tinder et il faudra deviner qui est la figure iconique de l'engagement écologique qui se cache derrière,
j'adore.
Bien sûr. Sachant que Thomas Pesquet n'est pas une bonne réponse. Je vais vous demander d'attendre la fin de mon énoncé avant de répondre.
Oh,
et
oh.
C'est parti pour le premier candidat à l'amour. Tout nouveau sur l'appli ces années. C'est pas moi qui ai mis les musiques, donc je me suis fait surprendre. Tout nouveau sur l'appli après des années sur Disons Demain, vieux loup de mer sans tatouage cherche sa sirène pour danser le calypso et plonger dans mon cœur. Ou dans l'Atlantique. J'ai un faible pour les discussions en profondeur, alors viens explorer mes DM, ma coquine. Si tu sais dissocier l'homme du poisson, ne me laisse pas en apnée et swipe à tribord.
Oh,
Jacques Mayol.
Il n'y a pas des propositions ?
Et non, il n'y a pas de propositions.
À Macron, il fait des propositions.
Non, pas sur les Tinder.
Sur ce format-là. Cyril.
Ah oui,
je peux vous donner un petit indice.
Ah oui, c'est
un
indice.
Cousteau.
Eh bien, notre stagiaire Lola un jour a confondu.
Ah, Guy.
Non, mais du coup.
Bah, Cousteau.
Cousteau, oui.
Cousteau, il l'a dit.
Très bien, Quentin.
Et oui, le commandant Cousteau, un sacré coquinou, hein, celui-ci, l'inventeur du scaphandre autonome à détenteur à oxygène et du prénom Jacques-Yves. Figurez-vous qu'il a aussi créé la première soucoupe plongeante qu'il a baptisée Denise, alors que sa femme s'appelait Simone. Donc, c'est Tinder.
Et moi un signe, hein.
On ne sait pas. Alors, on continue avec notre personnalité suivante. J'aime les balades sur la banquise tant qu'il y en a. Sauver les ours polaires et organiser des manifestations mondiales pour la Gen Z. Énorme red flag, ceux qui laissent couler l'eau pendant qu'ils se brossent les dents, ceux qui prennent l'avion et les boomers de l'ONU qui n'en foutent pas une pour sauver la planète. Comment osez-vous ne pas swiper à droite ?
Manon est...
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Ma fessine ne veut pas répondre.
Personnalité de l'année 2019, Greta Thunberg. Mais non, elle ne triche pas, elle l'avait.
Merci Marie.
Elle a été élue personnalité de l'année 2019 pour le magazine Time.
Oui.
Ce qui lui a fait un point commun avec Cyril, qui lui a été élu Mister Barbiche 2004 à Pantocombo.
Wow.
C'est des blagues, ça se voit. Les blagues sur Pantocombo. Mais sinon, que pense Greta de l'aller-retour de notre rédac-chef à Vegas?
Le fameux.
J'ai planté des arbres.
Elle qui a pris le bateau pour faire l'aller-retour à son discours à l'ONU.
How dare you?
Et bim, donc nous faire un petit pipi sous la douche, Cyril. Bio suivant.
Allez.
Certifié écolo de la première heure, j'ai exhibé Dame Nature depuis mon ULM. Plus docu que série, j'ai dompté les montgolfières, les plateaux télé, mais pas le premier de cordée. Si tu n'aimes pas les coupes de cheveux à la Pierre Bachelet, notre match sera comme les plaintes contre moi, sans suite.
Nicolas Hulot.
Oui, bah point Quentin.
C'est trop facile. Facile votre quiz.
Bah oui, c'est fastoche, mais on se met en jambes.
La musique qui va avec.
Je l'avais pas, perso.
Ah bon, mais,
du coup, pour Quentin.
Si, je vous ai laissé gagner, comme d'habitude.
Pour l'instant, je crois qu'on est à 1...
2.
Bon, je ne sais pas, je ne fais pas le décompte.
Quentin a 2 points.
C'est Quentin qui est en lead. Main sur le buzzer, on continue.
On n'a pas de buzzer.
Éleveur de récolte et de brebis cherche âme sœur pour traire la vie. Chez moi, tout est bio, même la moustache. Daron des éco-terroristes, j'aime la
pipe.
Et oui, bon bah allez, point.
On l'a tous là.
La fin était quand même, clique si tu aimes, red flag si tu OGM.
C'est beau,
c'est magnifique. Une petite dernière avec un petit José bonus. Dans la liste suivante, quels fun facts sont vrais? A, sa moustache a été utilisée en motion capture pour la série Astérix d'Alain Chabat.
Ouais.
B, mais le plus célèbre des paysans.
Mais vous savez pas jouer, Cyril.
Et le attendez, réponds-moi. Écoutez-moi.
Pardon, Marie.
B, le plus célèbre des paysans et fils de luxembourgeois. C, il a défoncé le McDo de Millau pour protester contre les taxes américaines sur le Roquefort.
Les trois.
A et C.
Et non, et bien c'était B et C.
Figurez-vous.
Ouais. Voilà, ça vous coupe la pique. Voilà. C'est Quentin qui a gagné.
Il suffit de changer de présentateur.
Ouais, c'est
voilà. Vous gagnez. Zoom sur le backlash écologique ou comment les politiques en faveur de l'environnement reculent. On est toujours avec le climatologue Jean Jouzel. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose dont je parlais en début d'émission. Les starter packs qu'on a vu pulluler sur les réseaux sociaux. Ici, donc, on a fait le nôtre aussi, tous. Hein. Et on a été pas mal critiqués dans les commentaires d'Instagram. Si je me fais l'avocat du diable, une seconde. Est-ce que, dans ce qui participe à ce backlash écologique, il n'y a pas aussi un peu de ce ras-le-bol des injonctions à la sobriété, que des gens peuvent en avoir marre de devoir se restreindre, alors que par ailleurs d'autres ne se privent pas de polluer et de manière beaucoup plus importante que faire une requête sur ChatGPT.
Oui, c'est vrai, il y a une inégalité par rapport à ces problèmes environnementaux. Bon, disons d'ailleurs, au niveau de la... Disons, tout le monde n'est pas égal par rapport à la lutte contre l'environnement. Et il peut y avoir... Disons, ça crée en plus des inégalités, le réchauffement climatique. Donc, c'est un peu un des problèmes. Et on comprend bien que disons, il y a ce ras-le-bol de certaines personnes dans certains cas. Alors, quand on parle de sobriété, j'aime quand même bien, disons... revenir à l'aspect scientifique. En fait, disons dans le rapport du GIEC, on n'utilise plus ce mot sufficiency, c'est-à-dire le mot anglais qui veut dire, disons, ce qui est suffisant pour la qualité de vie des gens. C'est-à-dire, comment fait-on ? Parce que on ne peut pas non plus, la sobriété, c'est peut-être un peu regarder ce que l'on fait. Par exemple, on peut parler de la sobriété quand on limite la vitesse à 70 km/h. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'actions qui ne nuisent pas du tout, qui peuvent être prises, qui ne nuisent pas du tout à la qualité de vie. Et c'est ça pour moi, l'objectif, peut-être le mot sobriété n'est pas très élégant, mais cette idée de donner à chacun d'entre nous une qualité de vie. Et c'est cela qui est, je crois, au contraire, qu'il faut mettre en avant dans la transition écologique. C'est bien ça, c'est cette qualité de vie qui devrait en résulter.
On parlait beaucoup des États-Unis tout à l'heure, mais est-ce que vous avez le sentiment que ce n'est plus la priorité en Europe aussi ? On avait le pacte vert, par exemple.
Oui, le pacte vert est vraiment mis à mal. Ouais. On a eu, des secteurs, un secteur auquel je suis attaché, donc le pacte vert en particulier. Sur le monde agricole, il y a quand même des reculs. Il y a des reculs dans l'ambition. Il y a de l'ambition dans le pacte vert. Il y avait de l'ambition au départ, en tout cas dans la première version, extrêmement, aussi bien au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique que sur les problèmes de biodiversité, les problèmes de pollution. Cette ambition, elle est questionnée clairement, y compris les objectifs. Alors, il y a cet objectif ambitieux de neutralité carbone à horizon 2050 qui est affiché, mais on est en train peut-être de revenir sur les objectifs intermédiaires. Oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Je suis complètement en phase avec les objectifs de l'Europe qui sont avec cette ambition. Mais malheureusement, je crains que cette ambition ne soit remise en cause par certains décideurs politiques. On voit bien d'où ça vient, les conservateurs, les libéraux et l'extrême droite, soyons clairs.
Merci, on revoit à la baisse les objectifs. Est-ce que c'est pas un danger ? Votre consoeur, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, parle de grand renoncement. Est-ce que c'est ça le plus grand danger, de renoncer ?
Oui, c'est parce que ce n'est pas un jeu ce que l'on fait. C'est-à-dire que le réchauffement climatique est une menace pour notre humanité et pour la nature qui nous entoure, pour la santé de notre planète. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui n'arrivera pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous envisageons depuis 50 ans. Et malheureusement, ce que nous envisageons au cours des prochaines décennies demande à ce qu'on le prenne très au sérieux.
Et comment, et est-ce que surtout, on peut revenir à une politique environnementale consensuelle ?
Je l'espère, oui, bien sûr, parce que, il faut mettre en avant les côtés positifs de cette transition, qui sont assez nombreux, je le redis, on pourra, bien sûr, par exemple, allez, je vais te donner un seul exemple, si on avait une France, construite, une énergie construite autour, en particulier des énergies renouvelables, peut-être un peu de nucléaire en France, on aurait une autonomie et on gagnerait beaucoup d'argent, ce serait extrêmement positif, ne serait-ce que du point de vue balance commerciale, soyons très simples, même du point de vue économique, ce devrait être extrêmement positif.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Manon Mariani, à cette heure-ci, il y a écrit la personne à suivre, même si ici, chacun le sait pour nous, c'est vous, la personne à suivre. Notamment évidemment. Sur Instagram, avec récemment la publication de vos photos d'appareils jetables, Jean Jouzel. Oui. Elle a un appareil jetable. Oh, pas très écolo, tout ça.
C'est vrai, pardon.
Bref, si on veut aller plus loin sur le backlash écologique, qui est votre personne à suivre ?
Je vous présente Camille Etienne. Et oui, elle a 26 ans, elle est française et pour la jeune génération, elle est devenue le visage de l'activisme climatique en France. Les Suédois ont Greta Thunberg, les Belges Adélaïde Charlier et en France, on a donc Camille Etienne. Originaire de Savoie, elle a été élevée au pied des montagnes dans un environnement où la nature n'est pas un concept mais un élément au cœur de la vie quotidienne. Son activisme lui vient très tôt. Ado, elle crée une antenne locale pour Amnesty International et va donner des cours de français aux migrants à Calais. Son bac scientifique en poche, elle rejoint Sciences Po Paris et après avoir obtenu son master, elle fait une année de césure pour se consacrer au militantisme. Et elle a eu le nez creux. Elle se fait rapidement connaître sur les réseaux, notamment grâce à la diffusion de courts-métrages pour alerter sur le changement climatique. Le premier sort en plein confinement, il s'appelle « Réveillons-nous ».
Il va falloir se bouger, sortir dans les rues, pancarte à la main. mettre les mains dans la terre et la terre dans nos programmes scolaires, descendre des avions et se réconcilier avec le Luberon.
Se réconcilier avec le Luberon. Elle lance un appel à la jeunesse sans jugement et sans invective, Libération, qui lui consacre un portrait, qualifie son ton de poétique et la compare au groupe Fauve. Alors, je ne sais pas si c'est un compliment, mais en tout cas, sa vidéo fait le tour du monde. Elle est vue plus de 15 millions de fois et elle installe Camille Etienne comme le nouveau visage de l'écologie française. Deux ans plus tard, elle réalise Glacier pour alerter sur la fonte des glaces et en 2023, elle signe Pourquoi on se bat, un documentaire en 4 épisodes où elle part avec ses meilleures amies Solal et Jade à la découverte de l'Islande. À travers leurs regards, leurs discussions et leurs découvertes, les trois amies mettent en avant les combats écologiques qui leur tiennent à cœur. Alors le pillage des fonds marins, la fonte des glaces, le dérèglement climatique et comment se reconnecter à la nature. Camille Etienne a aussi été l'une des premières militantes à alerter sur les risques liés aux polluants éternels. Sur ses réseaux, elle a plusieurs fois pris la parole sur ces substances chimiques ultra résistantes qu'on retrouve dans des centaines de produits de consommation courante. Et grâce à son travail, l'Assemblée nationale a adopté en février dernier une proposition de loi les interdisant à partir de 2026 dans les cosmétiques, la plupart des textiles et les chaussures. Un combat qu'elle prend comme exemple lorsqu'elle parle du backlash écologique à Libération en mars dernier. Pour elle, il est important de faire corps sur ces sujets qui ont un potentiel rassembleur. Je la cite, « Ces alliances sont une réponse à la panique sur l'accélération de la montée des réactionnaires et c'est une manière d'arracher des victoires concrètes sur de gros sujets le temps que l'ouragan passe. »
Merci Manon. Jean Jouzel, Camille Etienne parle aussi de carbofascisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule ?
Elle s'est rendue, c'était quand même assez clair ce débat avec le député Jean-Philippe Tanguy de
Rassemblement National.
Rassemblement National, c'était vraiment extrêmement poignant. Donc, sur Camille Etienne, j'ai eu le plaisir d'échanger avec elle, bien sûr, de nombreuses fois, y compris en début d'année, dans des interviews croisées dans La Croix. J'apprécie son engagement. Je pense que les engagements peuvent être très différents d'une personne à l'autre, mais ce qui est important, c'est effectivement de porter cette cause. Alors, chacun à sa façon. Moi, je porte plus de façon d'un scientifique, mais voilà, je respecte beaucoup ses engagements.
Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière sur France Inter.
Dans la famille des plus gros pollueurs du bureau, je voudrais le patriarche, celui qui nous bat tous à plate couture, j'ai nommé évidemment Pierre Courade, un tour du monde, des allers-retours mensuels, Paris-Lourdes en avion, des voyages en business, l'aéroport est sa seconde maison, d'ailleurs il nous revient tout droit du Canada, et oui, bonjour ouais. Pierre Courade.
Bonjour Manon, vous partez au Mexique en allô j'imagine.
Très bien, Pierre, tout ce qu'on s'est dit, résumé en une minute évidemment, et pas plus, c'est parti pour votre petit carnet.
Ouais, et en plus me clasher le jour de la mort du pape, c'est pas très cool. Oh. Heureusement, aujourd'hui, c'est un autre apôtre de la paix, Jean Jouzel, climatologue, prix Nobel de la paix en tant que vice-président du GIEC qui était avec nous. On a parlé du backlash écologique, un retour de bâton en bon français, de la conscience écolo, un recul dans les priorités des politiques publiques. On l'a vu dernièrement, tristement, avec Donald Trump qui coupe dans les budgets et réintroduit les pailles en plastique, mais ça se vérifie aussi en Europe, où le Parlement européen vient d'acter un recul du pacte vert. Pour Jean Jouzel, ce backlash vient essentiellement des décideurs politiques et pas forcément de l'opinion publique. Chez les citoyens, la question écologique reste prise au sérieux, mais il reconnaît quelques maladresses. Certains messages écologiques ont pu être perçus comme trop anxiogènes. Il prend l'exemple du documentaire de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic. Mieux vaut alors terminer avec ces mots de François, un pape à la haute conscience écologique, d'après Jean Jouzel, qu'il a rencontré. Nous avons beau essayer de les nier ou de les relativiser, les signes du changement climatique sont toujours plus évidents. Espérons que François ait eu le temps de les rappeler hier au vice-président américain J.D. Vance lors de leur rencontre.
Merci Pierre. Oui, merci Pierre. Un peu moins drôle que d'habitude.
Ah ouais
malgré
très engagé.
Le sujet est sérieux.
Oui, un jour de deuil papal, c'est normal.
Absolument.
Mais si on veut vraiment rire, autant laisser faire un vrai professionnel. Et pour ça, on a Guigui Pop. Guigui Pop, si j'ai bien compris, vous ne connaissiez pas le mot backlash avant cette semaine. Et pourtant, vous apprêtez une nouvelle fois à nous faire vivre un grand moment de radio.
Oui. Salut, c'est Guigui, deux fois Guigui, ainsi que Guy, double Guigui, puis Guy. Quand je dis Guy, vous dites Guy, ok.
Guy.
Comment je m'appelle?
Guigui.
Merci Jean.
Merci Jean. Avant d'entamer cette chronique, je voudrais vous préciser qu'il en existe deux versions. Alors, une première en tout point hasardeuse, écrite directement à chaud à la réception du sujet, et une deuxième, mûrement réfléchie, mesurée, qui fait avancer le débat, mais que Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, a jugé trop sage. Probablement à juste titre. Je me vois donc dans l'obligation de vous lire la première version. Est-ce que vous
êtes prêts?
Oui.
Let's go.
Pas le choix.
Pas le choix. Alors d'habitude c'est Guigui tendresse et Guigui joie au micro, mais là c'est Guigui colère qui vous parle. Ah oui, aujourd'hui je suis l'inverse de la brigade à Depardieu, je suis remonté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de backlash écologique? Je connaissais même pas le mot backlash avant d'écrire cette chronique. Je pensais que c'était un gâteau grec. Fin gourmet la Guigoute. Bon, si j'ai bien compris, le backlash c'est donc un retour de bâton. Bah j'espère que vous avez le ticket de caisse. Voilà. Alors, merci Jean. Et donc en écologie, ça se traduit par le fait d'abandonner une décision qui allait pourtant dans le bon sens. Alors en gros, pour tous les épicurieux qui nous écoutent, ce qui se passe en ce moment en termes d'environnement, c'est l'équivalent de la cuite du 1er février après le dry January. Je fais partie de ces gens qui ne comprendront jamais pourquoi on invente des mots qui foutent le cafard comme épicurieux, et surtout pourquoi l'écologie n'est pas top 1 de priorité à tous, alors qu'on est censé être l'espèce la plus intelligente de la planète. Enfin, quand je dis plus intelligente, je rappelle quand même qu'on est obligé d'écrire « ne pas avaler sur les sachets de lessive ». Tout doux l'homo sapiens. Bon. En parlant d'intelligence, Donald Trump a donc annoncé le retour des pailles en plastique. Mais attendez, est-ce que ce serait pas le sujet parfait pour faire des imitations pas dingues à partir d'un jeu de mots pas glorieux? Non? Je me sens pas chaud, là? Bon, je me prête à me lancer dans une séquence entre le génie et la gêne sur la première radio de France. Donc, à la manière des poignets dans un manège à sensations, je vais demander à l'équipe autour de cette table de ne pas me lâcher. Hein, c'est parti. Parce que si Donald veut un retour en arrière, qu'à cela ne tienne, je vais lui en donner. Bienvenue dans Backlash to the Future. Salut, Donald. C'est le Doc. Je précise mon identité parce qu'en réalité, c'est Guigui, mais je n'ai aucun talent d'imitateur. Cette séquence est déjà culte. Nous voilà dans la DeLorean, Donald. Où veux-tu aller? Ah, good morning, Doc. Passons dans le passé avant l'arrivée des pailles en plastique. Nom de Zeus! Tu n'as vraiment aucune inspi, vieux trou de balle. Elles ne sont même pas encore interdites et c'est un projet pour un arrêt définitif en 2035. Nous faisons du surplace, c'est vraiment affligeant. On dirait ce sketch. Je n'aime pas trop ton petit ton. Je n'aime pas trop ton petit ton, Doc. Laisse ce sketch tranquille. Très bien, si tu provoques, remontons encore plus loin, avant l'invention du plastique. Bien joué, Donald. Tu as le même teint que mes clignotants, mais tu es de plus en plus écolo. Tu me parles trop mal, Doc. On dirait Cyril Lacarrière quand il parle à Guigui Pop. Tu m'as traité d'écolo, j'ai vraiment la rage. Remontons à une époque où l'écologie n'existait pas. Mon plan fonctionne à merveille, car tu as le QI d'une paille. Nous voilà revenus à la préhistoire, Donald. À la manière des auditeurs qui sont partis en masse depuis le début de cette séquence, je te laisse ici, car personne ne t'aime. Ciao, petit père.
Oh.
Alors, à la manière... Alors, que retenir de cette séquence culte, si ce n'est qu'on va probablement retrouver le sempiternel « C'est à ça que servent nos impôts ?» dans la section commentaires sous la vidéo. Eh bien, je viens de vous démontrer avec brio que les lois environnementales sont comme les chroniques. Quand on a à sa disposition un texte mûrement réfléchi, mesuré et qui fait avancer le débat, peut-être vaut-il mieux rester dessus plutôt que de revenir à sa première version, en tout point hasardeuse, sage. C'est sûrement un défaut en humour, mais jamais en ce qui concerne l'avenir de la planète.
Oh là là, quel bien-pensant, merci.
On vous retrouve très vite dans Zoom Zoom Zen et vous penserez laisser des invitations pour notre invité.
Avec grand plaisir, Jean.
Pour votre spectacle. Merci, Jean Jouzel, d'être venu nous en dire plus sur cette inquiétante montée en puissance de ce backlash écologique.
Zoom Zoom Zen.